La difficulté dans un monde de flux, c'est la difficulté finalement d'arrêter quelqu'un qui voyage. En tous les cas, simplement des contrôles physiques sont complètement inopérants. Ce qui est vraiment le plus important, c'est au contraire l'échange de renseignements et une meilleure interaction entre les services, justement pour pouvoir identifier la personne et ensuite l'arrêter. L'idée, si vous voulez, de mettre des policiers aux frontières, simplement, c'est visible. Or, le problème, c'est qu'on voit bien, malheureusement, ce n'est pas corrélé. C'est pas parce que vous mettez du bleu quelque part que forcément, tout de suite, vous êtes en sécurité et que la France a vaincu le terrorisme. Ce qu'il faut privilégier, c'est pas forcément les réponses visibles, mais les réponses efficaces. Et les réponses efficaces, comme ce ne sont pas des réponses visibles, malheureusement, elles mettent un petit peu plus de temps à être mises en place.
Faire des contrôles d'identité aux frontières, pourquoi est-ce que ça peut difficilement être mis en œuvre et pourquoi ça ne fonctionne pas, en fait, concrètement ?
Eh bien, tout simplement, parce qu'un terroriste qui est un petit peu intelligent, il passera par les chemins secondaires. C'est d'autant plus facile maintenant que certaines frontières, je parle en particulier entre l'Allemagne et la France ou entre la Belgique et la France, sont aisément franchies par des chemins secondaires. Alors évidemment, on pourrait me répondre, mais de toute façon, il n'y a qu'à mettre des policiers aux endroits sensibles. Mais tout ça, évidemment, prend du temps. Il y a plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de chemins où tout ça est impossible. Deuxièmement, les contrôles aux frontières ont été renforcés à chaque attentat terroriste, mais on voit bien que les contrôles aux frontières ne peuvent pas être maintenus pendant plusieurs mois. Ça a un coût à la fois un coût direct, parce qu'il faut mobiliser des forces de police. Ça a un coût également indirect sur l'économie. Donc l'idée qu'on ait des contrôles aux frontières est utile, mais il faut que ces contrôles aux frontières soient développés, soient mis en œuvre en complément d'autres mesures. En particulier, je le disais tout à l'heure, l'échange de renseignements.
Et alors justement, comment est-ce que la coopération européenne a évolué ces derniers mois suite aux différents attentats en matière de renseignements ?
C'est vrai qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire, mais je dois dire qu'il y a vraiment une meilleure échange d'informations, et notamment via l'Office européen de police, à savoir Europol, et en particulier dans le cadre de son unité spécialisée en matière de lutte antiterroriste. Les États membres, en tout cas les services de renseignement des États membres, étaient toujours plus réticents à échanger de l'information, en tout cas de l'information sensible. Et on voit bien que finalement, la rétention d'informations ou le mauvais échange d'informations fait que les terroristes passent en travers les mailles du filet. Il faut bien voir que cette difficulté, elle a lieu entre les services européens, mais elle a également lieu entre les services nationaux. Je pense en particulier à l'Allemagne, où on voit bien que finalement, l'attentat a pu être commis parce que, notamment, il y a eu une mauvaise échange d'informations entre le Land de Westphalie et Berlin.
C'est-à-dire finalement, c'est toute une culture de concurrence entre différents services nationaux et transnationaux qui est en train d'être remise en cause. Donc c'est pour ça que ça prend du temps.
Je pense. C'est véritablement le défi. Il faut aussi qu'il y ait une plus grande implication du politique. À un moment donné, il faudrait pouvoir mettre en place au niveau européen des standards de qualité en matière d'échange de renseignements, que les défaillances puissent être mises en lumière, non seulement au plan national, mais également au niveau européen, pour ensuite pouvoir mettre en place des meilleures pratiques et que ces meilleures pratiques soient également suivies au niveau européen par les ministres de l'Intérieur. Maintenant, on peut considérer que les choses évoluent, c'est-à-dire que les services de renseignement s'échangent beaucoup plus facilement de l'information, notamment pour éviter ensuite que les politiques les pointent du doigt en disant « mais qu'est-ce qui se passe ? Vous avez fait de la rétention d'informations, donc dans ces cas-là, vous allez en assumer les responsabilités ». Mais à mon avis, tout ça prend du temps et ça dépend vraiment encore des États membres. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, je plaide pour l'idée qu'on ait une évaluation objective pour pouvoir vraiment mettre en lumière les bons et les mauvais élèves.
Est-ce qu'il y a d'autres défis au-delà de cette évaluation commune pour les années qui viennent ? Je pense au fait qu'il y a toute cette question de l'espace Schengen qui est difficile à contrôler. Qu'est-ce qui pourrait être fait encore ?
L'un des grands projets, en fait, il y en a deux, mais ils sont vraiment très complémentaires. Le premier, qui tire vraiment les leçons des difficultés relatives aux attentats de novembre 2015, c'est tout simplement qu'il y ait un meilleur signalement dans le système d'information Schengen. Il faut savoir, c'est que le système d'information Schengen fonctionne bien. Le rapport parlementaire concernant les attentats de novembre, donc qui a été remis en juillet 2016, a vraiment estimé que le système fonctionnait bien. La Commission européenne a rendu encore un rapport là il y a quelques jours pour préciser que le système fonctionnait bien. Mais cela étant dit, il y a du travail encore à faire concernant la qualité du signalement. Donc ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est la coordination et plutôt l'interaction à la fois entre les bases de données européennes et les bases de données nationales. Il y a deux obstacles principaux. D'une part, c'est la protection des données à caractère personnel, qui fait qu'on ne peut pas croiser les informations informations issues des fichiers comme ça. Puis deuxièmement aussi, c'est l'architecture des bases de données qui font que finalement, les bases de données sont difficilement compatibles entre elles. Je pense que ce sera véritablement un défi pour les années à venir.
Il y a aussi la question du suivi des armes. Finalement, c'est aussi un enjeu, ce contrôle des armes qui circulent. Est-ce qu'il y a des choses qui sont faites sur ce plan-là?
Ben justement, il y a une directive armes à feu qui a été sur la table après les attaques de novembre 2015. Un accord a été obtenu par le législateur européen entre le Conseil des ministres et le Parlement européen. Cela étant dit, le Conseil, les ministres voulaient vraiment un contrôle sur toutes les armes. Et ensuite, simplement, le Parlement européen, lui, estimait qu'il fallait aussi protéger les intérêts des chasseurs et des tireurs sportifs. Donc finalement, certaines armes ne sont pas soumises à la directive. Maintenant, je pense qu'on verra aussi à l'usage, c'est-à-dire une fois que la directive sera transposée, le seul danger, c'est qu'en n'ayant pas une législation stricte, eh bien tout simplement, des criminels puissent se faufiler à travers les mailles du filet.